Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu approcher tout à l'heure. Que la grâce et la paix de Jésus soient avec tous ceux qui l'aiment. Nous avons adressé beaucoup de louanges à Jésus ce matin et nous allons continuer avec ce message. Parce qu'il arriva un jour où Jésus demanda à ses disciples qui était-il au dire des hommes. Et la réponse fut Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou un prophète. Et Jésus continua et leur dit, et vous, qu'en dites-vous? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. J'ai envie de vous dire ce matin, et vous, que diriez-vous si la question vous était posée? Jésus est-il simplement un prophète de plus? Cette question est déterminante pour persévérer dans la foi. Une vision juste de Jésus-Christ, le titre de mon message ce matin. Une vision juste de Jésus-Christ parce que pour la stabilité du croyant, le remède au doute et au découragement est de bien connaître qui est Christ. Pour cela, ce matin, je vous propose de regarder avec moi trois versets qui en disent long sur sa personne. Nous verrons dans ces versets qu'il est la dernière voix de Dieu, supérieure aux prophètes qui ont parlé avant lui sous l'ancienne alliance. Mais pas que. Nous allons essayer ensemble de décoder ce petit passage de la parole écrite de Dieu, trois versets trouvés dans l'épître aux Hébreux, que nous avons déjà consulté en plus ce matin. Trois versets trouvés dans l'épître aux Hébreux, qui je l'espère, encourageront ceux qui sont préoccupés par la personne de Jésus à persévérer dans leur foi en Jésus seul. Petite parenthèse, personne ne sait qui a écrit l'épître aux Hébreux. De l'Église ancienne aux commentateurs modernes, l'énigme reste entier. Mais ce qui importe pour nous, c'est qu'il soit considéré comme inspiré et digne de foi, étant donné qu'il a trouvé sa place dans notre Nouveau Testament. C'est au Saint-Esprit que nous devons le contenu de ce livre, conformément à 2 Pierre 1:21 qui dit « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Je vous invite donc à faire bon accueil de ce message. Venez avec moi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1. Un chapitre qui, je dirais, insiste sur la divinité de Christ. Et vu le temps qui m'est imparti, nous nous contenterons des trois premiers versets de ce chapitre comme contexte et comme référence ce matin. Hébreux, premier chapitre et les versets 1 à 3. Je fais la lecture. Autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Par les prophètes dans ces derniers temps. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui aussi, il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. L'Épître aux Hébreux vise principalement à exposer la supériorité de Jésus-Christ sur les anges, sur Moïse et Aaron et ses fils. Elle montre la supériorité de son sacerdoce par rapport à celui de l'ancienne alliance, de son sacrifice sur tous les autres et de sa nouvelle alliance en regard de l'ancienne. On pourrait croire que cette lettre s'adresse qu'aux Hébreux. c'est-à-dire la communauté juive, en tenant compte du titre Épître aux Hébreux. Et conformément au verset 1, qui nous dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Parler à nos pères par les prophètes, c'est-à-dire parler aux ancêtres. Ceci, les ancêtres, ceci s'appelait Moïse, pouvait s'appeler Esaïe, David, Jérémie et bien d'autres encore. Mais après une lecture en profondeur, je dirais, je pense qu'elle s'adresse à tout chrétien, ce qui justifie plutôt mon choix de ce paragraphe ce matin. Alors pourquoi je pense que cette épître s'adresse à tout chrétien? Parce qu'il démontre la supériorité de Christ sur tout ce qui l'a précédé, notamment les prophètes et les sacrifices lévitiques. Et ces trois petits versets, de par leur densité théologique, répondent catégoriquement à qui est Jésus-Christ. Christ est le dernier mot de Dieu pour notre salut, le dernier message de Dieu aux hommes. Dieu s'est révélé de la manière la plus belle et la plus forte qui soit par son Fils. Car l'œuvre de Christ va de la création à la restauration de toutes choses, en passant par la révélation du Père et la purification de nos péchés. Ensuite, Dieu l'a fait asseoir triomphalement à sa droite pour signifier sa totale satisfaction dans l'œuvre qu'il a accomplie et pour lui confier le règne. Ce passage montre la divinité et la supériorité de Jésus par rapport aux prophètes et affirme que le temps où Dieu parlait à son peuple par le prophète était terminé. Cela n'est pas sans nous faire penser à la parabole des vignerons en Matthieu 21, entre les versets 33 à 46, où le propriétaire de la vigne, voyant ses serviteurs rejetés et maltraités, décide d'agir de manière déterminante en envoyant son fils vers les occupants en se disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Le temps où Dieu parlait par les prophètes était terminé. Dieu nous a parlé de manière définitive par son Fils. Revenons à au verset 1 et 2, première partie du verset 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Notre texte met en évidence un avant et un après. Il y a ce qui était hier dans l'Ancienne Alliance et ce qui est aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. La première partie de ces deux versets, nous lisons « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils ». « Dans les derniers temps » est une expression courante dans le Nouveau Testament pour indiquer les jours qui suivent la première venue de Jésus. Nous vivons donc cette dernière période depuis la venue de Christ dans ce monde. Notre aujourd'hui est nommé dernier temps, jour de grâce, jour de patience et jour de salut. En Jésus, son Fils, Dieu parle maintenant à tous les hommes de manière directe. Le message de la rédemption du genre humain, du salut, passe par Jésus-Christ. Les derniers temps décrivent la totalité du temps entre la première venue de Christ et sa deuxième venue. L'Église primitive était déjà dans les derniers temps, dans les derniers jours. Et nous le sommes toujours. Ce sont les derniers jours par le fait que les paroles apportées par Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile, tout ce qu'il a dit sont définitifs. Donc, ce sont les derniers jours. Jésus était et reste la parole définitive de Dieu. Il ne faut rien attendre de nouveau ou de plus en termes de révélation de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit, Hébreux 3, 7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et puis, Dieu a parlé par le Fils. Le message de la miséricorde la vérité de la rédemption devint réellement chair et habita parmi nous. C'est pour cela qu'il est dit, Dieu nous a parlé par le Fils. Lorsque nous lisons Dieu a parlé par le Fils, nous devons comprendre le statut divin de Dieu, le statut divin de Christ, ce qui nous sous-entend sa préexistence. L'évangile de Jean au chapitre 1 nous dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, mais qu'elle était dès le commencement et que le monde a été fait par elle. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Lorsque Philippe demanda à Jésus de voir le Père, sa réponse fut « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, personne n'a jamais vu Dieu, a-t-il ajouté, mais le Fils, c'est celui qui l'a fait connaître. Et à Jésus d'ajouter « Moi et le Père, nous sommes un. » Et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père, disait-il à ceux qui n'avaient pas une juste vision de lui. Lisons maintenant, la deuxième partie du verset 2 et verset 3. Dieu nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier, par lui il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Nous voyons que Dieu a établi héritier, Jésus-Christ, héritier sur toutes choses. Dieu a choisi Christ pour entrer en possession de toutes choses. Toute possession du Père appartient au Fils. Le royaume de la nature, de la providence et de la grâce, il est propriétaire de la création tout entière. Il ne l'a pas reçu simplement de droit par décret, mais il l'a acheté en mourant sur la croix et par sa victoire sur la mort. Romains 14, 9 nous dit qu'en ressuscitant, il a établi sa domination sur les morts et sur les vivants. Et si nous continuons le verset 2, la lecture du deuxième verset, où il nous dit « Par lui, il a établi héritier sur toutes choses, de toutes choses. » Par lui, Dieu a créé l'univers. Nous avons ici un parallèle intéressant si nous lisons Colossiens, chapitre 1, verset 16, qui nous dit « En lui ont été créées toutes choses et tout a été créé par lui et pour lui. Il est notre destin, nous lui appartenons. Christ n'est pas un prophète ou un enseignant formidable, mais le divin. » Troisième et quatrième raison de sa supériorité sur les prophètes, c'est que ce que nous voyons au verset 3, il nous dit « étant le reflet de sa gloire ». Le verset 3 nous dit qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus est le reflet et la représentation de ce qu'est Dieu. Il y a contraste entre les paroles de l'ancienne alliance et les paroles de l'ancienne alliance, les prophètes et le Fils. On peut dire qu'ils ne jouent pas dans la même division. Notre verset nous expose trois choses importantes et une juste vision de Jésus-Christ. Ces trois versets nous montrent qui il est, ce qu'il fait et où il se trouve actuellement. La place de Jésus, donc, est unique. Sa parole est prééminente. Et l'univers de la Bible et la Bible ne prennent de sens que quand nous les considérons comme glorifiant Christ. Nous avons la conviction que la parole de Christ est notre autorité absolue. C'est la parole du roi de l'univers. C'est une parole juste venant de Dieu, lui-même. Et c'est une parole puissante. Puisqu'il est agent de la création et du maintien de l'univers. C'est la parole qui a lancé les planètes dans l'espace et qui les fait tourner en harmonie parfaite. Pourquoi Dieu nous parle-t-il par le Fils? Exode 33, verset 20, il est dit « L'homme ne peut me voir et vivre. » Telle fut la réponse de l'Éternel à Moïse. Il lui a dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Mais qui peut nous révéler Dieu mieux que Dieu même, mais que Dieu incarné? Et donc les expressions, le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne que nous voyons dans les textes nous montrent sans conteste l'identité divine du Fils. Il est de la même essence que le Père et est un avec lui. Ces titres nous orientent vers une des fonctions principales du Fils, la révélation parfaite du Père. Le Fils Jésus nous a permis de voir le Père Dieu par ses miracles, dont la résurrection des morts et son contrôle sur la nature. Il nous a permis de le voir par ses enseignements, car il est la parole incarnée. Le Christ nous a permis de voir par sa sainteté étant sans péché. Il nous a permis de voir Dieu par sa sainteté étant sans péché. Et il nous a permis de le voir par sa compassion envers les malades, envers les rejetés et encore envers les pécheurs. En résumé, l'essentiel de ces trois versets nous invite à graver dans notre fort intérieur le fait que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, sa parole nous révèle exactement le Père et sa volonté. Et c'est la cinquième raison de sa supériorité par rapport au prophète. Jésus soutient toute chose par sa parole. Nous voyons dans le verset 3, il soutient toute chose par sa parole puissante. Donc l'univers n'est ni absurde ni autonome. Il a été fait à dessein par son intermédiaire et il le maintient et a gardé pour son but ultime. Glorifier Jésus-Christ, c'était là son but, par le but de Dieu, par Jésus-Christ, c'était glorifier Dieu. Il a fait ensuite, nous voyons, la purification des péchés. Verset 3. Il a fait la purification des péchés. Il a fait la purification des péchés après l'identité divine de Christ et son rôle dans la création. Eh bien, par ce terme, nous le voyons grand sacrificateur. Jésus lui-même, en tant que Seigneur, a expié seul les péchés du monde par son sacrifice personnel. Il a pris sur lui nos péchés, il les a portés et mourut en punition de nos fautes et les a anéantis ainsi pour toujours. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la septième parole de ces trois versets, il s'est assis, nous le voyons à la fin du verset 3, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. La majesté divine n'est autre que Dieu le Père. Le simple fait que Jésus se soit assis à la droite de Dieu pourrait ne pas nous émouvoir si nous ne prenons pas un instant pour méditer sur le sens profond de cet acte riche en symbolisme. La droite de Dieu représente sa puissance, sa grandeur et son approbation et sa gloire. Jésus-Christ s'est assis. Quand nous disons « Jésus-Christ s'est assis », qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous fait voir et nous montre l'achèvement de son œuvre, rédemptrice et son acceptation par le Père. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, ne s'asseyaient jamais dans le tabernacle. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais terminé leur travail et celui-ci n'amenait jamais à aucune efficacité totale. Donc Jésus s'est donc assis à la droite du Père parce que la purification de nos péchés était et reste accomplie. Il attend maintenant la révélation parfaite de son œuvre devant l'univers tout entier. Et je terminerai par ceci en disant ce matin, Dieu parle encore. Une bonne connaissance de Jésus-Christ est essentielle pour persévérer dans la foi. Ce petit paragraphe de 3 versets regorge de déclarations christologiques fortes qui doivent susciter chez nous une juste vision et une allégeance sans partage à Christ. En nous soumettant à l'autorité des Écritures comme révélation divine parfaite et centrale du christianisme. La parole de Dieu est vivante et efficace et elle nous vient d'en haut. Le salut est la révélation et la révélation sont l'affaire de Dieu qui nous a parlé par son Fils. Jésus, c'est la plénitude messianique. Il est prophète, il est roi et grand souverain sacrificateur. Il est prophète parce qu'il vient à la fin d'une longue lignée de prophètes. Nous l'avons lu au verset 1. Et qu'il parle, il est prophète parce qu'il est à la suite d'une longue lignée de prophètes, nous dit le verset 1, et qu'il parle de la part de Dieu. Il est le prophète par excellence, annoncé à l'avance par Moïse, qui était le plus grand de l'Ancien Testament. Lui-même, il a dit, « Votre Dieu nous suscitera un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Il est roi parce qu'il est le fils héritier siégeant victorieusement à la droite de Dieu. Verset 2. Il est grand souverain sacrificateur parce qu'il a fait la purification des péchés, nous dit le verset 3. Il nous dit, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, etc. Donc nous devons voir dans ces versets, ce matin, la supériorité de Christ et son message. Car le but de ce texte est de nous faire briller Christ, tout simplement. Une juste vision de Christ, c'est comprendre qu'il y a à la fois continuité et rupture entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il y a continuité parce que celui qui a parlé par les prophètes de l'ancienne alliance est le même qui nous a parlé et qui nous parle par le Fils. Donc, une juste vision de Jésus-Christ nous rassure pour la vie éternelle. En lui, Dieu nous a tout dit. Il ne reste plus rien à dire en dehors de lui. Nous sommes appelés à nous attacher à son message avec un respect particulier et d'être fascinés par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ce texte résume bien son ministère. Il n'est pas seulement la parole incarnée qui révèle le Père. Cela ne suffirait pas à notre salut. Nous le voyons actif dans son ministère qui va de la création à la révélation puis la rédemption. Nous rendons aussi capables d'entrer dans la présence de Dieu. Nous avons un Sauveur qui a parfaitement accompli sa mission d'expiation. Et nous avons un Père satisfait. C'est ce que l'on peut dire de ce message. Nous le voyons. Il a accompli tout ce que le Père lui a demandé et puis il s'est assis à sa droite dans les lieux célestes, dans la majesté divine, nous dit le texte. Donc, nous avons un Sauveur parfaitement accompli, ce qui accomplit sa mission, et nous avons la paix avec Dieu. Et pour couronner le tout, en lui, Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes, en Jésus, en lui, nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 6. Voilà donc une juste vision de Jésus-Christ sous laquelle nous devons méditer, remplie de reconnaissance. Jésus est celui qui a rapproché les hommes de Dieu. Il parle encore aujourd'hui à toi qui ne connais pas Dieu pour te révéler son plan pour toi. Il veut te révéler ce qu'il a pour toi ce matin, pour te réconcilier avec lui. Il t'envoie son message aujourd'hui pour te pousser à la repentance afin d'éviter la colère de Dieu. Personne ne peut prétendre au repos céleste et faire partie de son royaume s'il refuse d'écouter Christ et se repentir. Enfin, une juste vision de Christ pour toi qui est étranger à la vie de Dieu, c'est de croire qu'il te parle de la part de Dieu. Il veut te réconcilier avec Dieu en te libérant du péché pour te faire paraître saint et sans défaut, sans reproche devant lui. Car Jésus-Christ a fait la paix pour toi aussi par son sang à la croix qui purifie et donne la vie éternelle à tous ceux qui croient. Voilà. Je m'arrête ici. Ayons une juste vision de Jésus-Christ. Dieu nous parle par son Fils dans la Bible, sa parole écrite. Restons concentrés sur ce qu'il nous dit, sur ce qu'il attend de nous dans ces derniers jours. Jésus-Christ n'est pas simplement un prophète de plus. Il est le dernier mot de Dieu aux hommes. Il est la révélation. Il est le dernier mot de Dieu pour notre salut. Il est la révélation parfaite de Dieu aux hommes. Le seul intermédiaire efficace pour notre rédemption et le seul qui puisse nous purifier de tout péché. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Amen.